Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dans 10 jours, nous fêterons Noël. Et oui, c'est un avant-express que celui de cette année 2018, à peine 3 semaines. Si l'essentiel pour Noël est de s'habiller le cœur et l'âme, comme l'on dit parfois, la magie de Noël, c'est aussi de se faire des cadeaux, de trouver l'attention qui fera mouche. Et quoi de mieux qu'un livre, me diraient mes invités de ce matin, tous bibliophages. Noël et ses livres, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église ce matin, ce vendredi, avec autour du plateau Monique Fauché, Madame Littérature de Radio Présence, productrice de l'émission Parole d'auteur, qui est le mardi à 19h. Bonjour Monique.
Bonjour Emmanuel.
Sylvie Austry, je disais en rigolant, en préparant l'émission, Mademoiselle Littérature, non pas qu'elle ne soit pas mariée, mais Monique a quand même presque quoi, 30 ans d'émission, c'est ça ? Responsable de la chronique Coup de cœur de jeunes, le vendredi à 8h12 et le samedi pour une rediffusion. Bonjour Sylvie.
Bonjour Emmanuel.
Et un petit peu plus tard, nous rejoindra François Raverdeau, président de la librairie Silo et Joanneau à Toulouse, librairie religieuse dans le centre de Toulouse. Connaissiez-vous le terme bibliophage ? Monique, vous qui connaissez tout.
A priori, bibliophage, on peut comprendre le sens, hein, oui.
Voilà, j'ai hésité parce que bibliophage, c'est aussi comme ça que l'on désigne les insectes comme les blattes et les termites qui dévorent les livres dans les bibliothèques.
Alors, on dévore les livres, effectivement, certains livres.
N'est pas des cafards.
Alors, le propos de cette émission, comme chaque année ou presque, c'est de donner quelques pistes de lecture aux auditeurs, aussi variés qu'ils soient, qu'ils aiment ou pas la lecture. Charge à vous d'essayer de nous donner des idées de cadeaux, et peut-être de cadeaux même à se faire à soi-même. On commence avec vous, Monique, pour, on va dire, la partie littérature adulte. Alors que ça n'empêche pas... Sylvie, d'intervenir. Pardon, vous vouliez faire une remarque
oui,
de préambule.
Déjà, vous nous avez donné une contrainte que vous ne manifestez pas, là. C'est qu'il fallait que ce soit porteur d'espérance. Eh bien, je vais vous dire que j'ai eu un mal fou, parce que la littérature actuelle est à l'image de notre société, plutôt morose. Plutôt donc, morose, vraiment.
Et donc, vous vous êtes arraché les cheveux, vous avez
passé des nuits blanches, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut donc ? Pourquoi cette contrainte ? Et en même temps, je le comprends, au moment de Noël, écoutez, soyons
c'est
heureux.
C'est pas le cas chez les jeunes.
Oui, ben voilà. tant mieux, parce que vraiment, du moins les invités que j'ai eus, c'était souvent de très bons livres, mais on ne peut pas dire porteurs forcément d'espérance. Alors j'en ai sélectionné 3.
3, on va commencer.
Même 5, mais je sais que là aussi, vous me facilitez
voilà,
pas.
Voilà, Monique Fauché n'est pas venue avec son gilet jaune, mais c'est presque le cas. Alors, Le chemin des humbles de Rémy Borde, c'est le premier paru aux éditions Plomb Terre Humaine. Il est paru en 2017. Je vais avoir du mal à résumer. En tout cas, je peux dire quelques mots de ce Rémy Borde, qui est professeur de langue à l'INALCO, l'Institut National de Langue et de Civilisation Orientale, de Népalais, si je ne me trompe pas. Il est ethnologue et anthropologue, entre autres. On dit aussi de lui qu'il est... Il y a quelque chose de poétique dans son récit. Et c'est un livre d'immersion sur un temps passé en Inde.
Oui, de 98 à 2006. Et quand vous dites ethnologue ou anthropologue, et même on peut mettre sociologue, finalement, les trois se rattachent. Maintenant, on fait de moins en moins de distinguo entre ces trois termes. Oui, voilà. Alors bon.
Que raconte ce livre pour commencer ?
Alors, ce livre, c'est un gros ouvrage, mais je peux dire à nos auditeurs que vraiment, tout le monde peut y trouver son compte. Et je dis, y compris les messieurs qui, paraît-il, lisent moins que les dames, peuvent être passionnés. C'est donc que la collection Terre Humaine est quand même une édition glorieuse, hein, mythique, sur des récits d'ethnologues. Mais Les Derniers Rois de Tulé, qui a été lancé par Mallory, un ethnologue très connu, c'était un roman passionnant. Et il y en a eu énormément. Vous puisez dans cette édition, vous trouvez des romans passionnants. Alors, à nos auditeurs, allez-y. Là, il s'agit du Népal, où a vécu pendant 8 ans cet auteur, Rémy Borde. Il est parti parce qu'il estimait que, comme tout ethnologue, il faut être sur le terrain pour comprendre et non pas derrière un bureau.
Il a vécu en immersion, dans une famille brahmane.
Voilà. Alors, il a vécu, mais attention, il a vécu dans un village complètement perdu, vous dire à quel endroit c'est à peu près à 500 km de Katmandou. Ça a d'ailleurs été dévasté par le tremblement de terre de 2015, donc il y a 3 ans, il y est revenu. C'est dans un endroit complètement perdu, il n'y a pas de moyens de communication, il n'y a pas de route, il n'y a que des chemins. Bon, il n'y a pas de voiture, évidemment, enfin bref. C'est dans des conditions tout à fait difficiles qu'il a eu ce courage de vivre là, être en contact au plus près avec la population.
Alors, qu'est-ce qu'il raconte, en fait ? Il décrit en fait la vie, tout simplement, comme tout bon ethnologue.
Voilà. Alors, il décrit la vie de ces gens, pauvres parmi les pauvres. Ce sont des agriculteurs qui n'entassent pas. Ils cultivent ce dont ils ont besoin pour l'année. Ils ont des structures sociales très étonnantes, puisque, en définitive... Là, c'est une caste, une seule et même caste. Donc, ils sont tous parents, soi-disant. Ils se connaissent tous et ils s'appellent frères. Et lui va être adopté comme tel. Alors, en apparence, tout ça est très beau. Il y a beaucoup de choses qui sont très bien, d'ailleurs, parce que ce sont des gens qui ne se plaignent pas, qui acceptent qui travaillent très dur, mais qui savent également se reposer. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que, en définitive, lui a adopté leur mode de vie, c'est-à-dire qu'il a cultivé. Et pour commencer à les connaître, il a choisi la botanique. Et c'est vrai que ça, c'est pas idiot, parce qu'en définitive, parler des plantes que les gens cultivent, qu'ils connaissent, qu'ils utilisent pour se soigner, c'est quand même un moyen de communication extrême, parce que ça l'intéresse, il pose des questions, il essaie lui-même de planter dans son petit carré de jardin, ça fait rire les uns, et touche les autres, il s'échange des conseils, même des boutures, etc. Et de fil en aiguille, il va connaître les gens, il va apprendre la langue, parce qu'au départ, il a un interprète, mais l'interprète, c'est un obstacle. Alors là, il n'aime pas, donc il va apprendre la langue et il va se débrouiller très bien. Et puis, il va passer des plantes, forcément, il y a des plantes médicinales, du coup, il va passer à la médecine, il va être appelé pour aider, pour soigner éventuellement quelqu'un. Donc, à travers la médecine, les malades, il va voir la mort aussi, comment ils vivent cela. Et puis, petit à petit, il va rencontrer, en dernier ressort, il va rencontrer des intouchables. Et ça aussi, c'est passionnant. Et puis, pour terminer, mais là, je brûle les étapes, il va parler de la vieillesse. Et ça, c'est également quelque chose d'important et qu'il est bon de rappeler dans nos contrées.
Voilà, je sens que je vais vous soumettre à la torture et qu'il faudra choisir que 2 livres l'année prochaine parce que je vois le temps qui passe, il faut déjà passer au second.
Voilà.
Le chemin des Indes de Rémy Borde.
C'est une manière élégante, Emmanuel, de dire que je suis bavarde.
Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Deuxième livre que vous avez choisi, c'est L'enfant qui mesurait le monde Metin Arditi, paru aux éditions Point en 2017. Je vais essayer de résumer le propos, comme ça on va gagner un petit peu de temps et je vous laisserai nous dire ce qui vous a frappé dans cet ouvrage. C'est sur l'île de Kalamakis, Yanis, un jeune enfant autiste, mesure chaque jour l'ordre d'arrivée des bateaux, les quantités pêchées, etc. Bref, il est dans son monde et il cherche à capter l'ordre du monde. Un projet de construction vient diviser l'île et menacer l'équilibre de cette île. Et c'est l'histoire d'une amitié avec un architecte américain, Elliot, qui étudie le nombre d'or. Voilà, amitié semble-t-il bouleversante. Que faut-il retenir de ce livre et pourquoi vous a-t-il tant plu, Monique ?
Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir le parallèle entre la situation de la Grèce et donc de cette île et la situation de cette famille très réduite en définitive, c'est-à-dire que c'est une famille éclatée et la Grèce est un pays éclaté. C'est au moment où il y a la grande crise économique dont ils sortent à peine. Et en définitive, on essaie de trouver des solutions plus ou moins valables. Et en fait, c'est ça. Le pays va mal. Il y a des promoteurs qui veulent profiter de la déconfiture du pays pour mettre des grands ensembles immobiliers ou hôteliers et au risque de perdre un peu son âme parce que les îles grecques sont très belles. Et de même que ce jeune enfant dont on va parler, puisqu'il est dans cette famille, qui est le centre de cet ouvrage, dans cette famille, il y a un enfant autiste, un enfant qui a des dons, un peu comme dans Rain Man de Dustin Hoffman, vous savez, c'est-à-dire qu'avec les chiffres, il joue d'une manière fabuleuse, mais cet enfant, il est dans cette famille, il est difficile, il a des colères terribles, des crises, parce qu'il faut que tout soit cadré, réglé, mais en même temps, il est accepté dans le village, il fait partie du village, et en fait, il y a un homme venu d'ailleurs, qui est d'origine grecque, mais il est un architecte américain, et il va venir parce que sa fille est morte accidentellement sur cette île. Il va venir et il va apporter autre chose, un autre regard. Et donc, il y a une forme de réconciliation et de l'île et de la famille.
Voilà, donc très bel ouvrage, semble-t-il. L'enfant qui mesurait le monde, donc de Metin Arditi, paru aux éditions Point en 2017. Il faut dire aussi peut-être que ce Metin Arditi n'est pas n'importe qui. On imagine que c'est le cas souvent d'un certain nombre d'écrivains, mais j'ai cru comprendre qu'il était, entre autres, j'ai vu qu'il était ambassadeur de bonne volonté auprès de l'UNESCO.
Voilà il est francophone d'origine turque.
Dernier livre, et non des moindres, un Hosanna sans fin de Jean Dormesson, édition Héloïse Dormesson, paru en 2018. Alors là, je vous laisse carte blanche, Monique. C'est le livre posthume de Jean Dormesson que vous avez reçu, je crois, dans votre émission, qui semble-t-il fini par ces mots « Et la mort elle-même ne peut rien contre moi ».
Voilà, exactement. Alors bon, c'est un cadeau qui nous fait, un cadeau posthume. Vous savez qu'il a terminé 3 jours avant sa mort. Et ce qu'il a dit en mourant, c'est son épouse, qui était tellement discrète que moi je ne l'avais jamais vue, qui a dit, il a dit ces mots, Jésus-Christ, au moment où il est mort. Ce que donne ce livre, c'est un peu, si vous voulez, un condensé de ses derniers écrits, de ses derniers ouvrages. Il donne à rêver, à espérer, à croire. Et c'est ce qu'il nous propose donc dans des courts chapitres. C'est un petit livre. Vous ferez plaisir à beaucoup de monde en l'offrant. C'est un tout petit livre fait de courts chapitres et très facile à lire, que vous pouvez prendre comme ça en pleine nuit ou à n'importe quel moment.
Et quel est son propos à cet ouvrage ?
Écoutez, il parle Alors, de quoi parle-t-il ? Il parle de la mort comme une énigme. Il dit « Le seul vrai problème qui vaille, celui de la mort et de notre destin dans l'éternité. » Et l'amour, le savoir, l'art, la beauté, le pouvoir, le travail, l'argent, le sport, les jeux sont là pour ne pas y penser. Il parle aussi de l'énigme de la naissance, finalement. Pourquoi naissons-nous ? Il parle de son amour de la vie. Et ça aussi, on le sait, il aimait la vie. Il aimait la vie, il aimait les gens, il aimait la nature, voilà. Il parle de l'humilité. Nous ne savons rien, nous savons ni d'où nous venons et ni où nous allons. Eh bien, il faut accepter cela. Et puis, bon, il y a son humour aussi. Et puis, évidemment, il parle de l'existence de Dieu. Et il y a il y avait une boutade qu'il avait dit, mais là, ce n'était pas dans son ouvrage. Il disait à quelqu'un qui lui avait dit « Vous n'avez aucune preuve de l'existence de Dieu ». Il lui avait répondu « Ben, vous n'avez aucune preuve de la non-existence de Dieu ».
Voilà, j'ai lu aussi que dans une autre citation, il avait dit la chose suivante. Disons les choses avec simplicité, avec une espèce de naïveté. Il me semble impossible que l'ordre de l'univers plongé dans le temps, avec ses lois et sa rigueur, soit le fruit du hasard. Du coup, le mal et la souffrance prennent un sens, inconnu de nous, bien sûr, mais malgré tout un sens. Du coup, je m'en remets à quelque chose d'énigmatique, mais qui est très haut au-dessus de moi et dont je suis la créature et le jouet. Et il ajoutait, je ne suis pas loin de penser qu'il n'y a que l'insensé pour dire il n'y a pas de Dieu.
Voilà, exactement. Et il dit, tous les miracles que nous avons vus défiler sous nos yeux, écarquiller la goutte d'eau, le grain de sable, le temps dont nous ne savons rien, l'histoire, cette stupeur, la vie, une nécessité peuplée de hasard, ben, tout cela, dans ces conditions, Dieu n'est pas beaucoup plus invraisemblable que le monde étrange où nous vivons tous les jours et qui nous paraît si évident. Oui.
Voilà, donc un très beau cadeau à faire probablement, un Hosanna sans fin de Jean Dormesson aux éditions Héloïse Dormesson, paru donc en 2018. Et Monique, il vous reste 2 minutes pour parler des autres livres que vous avez amenés.
Alors oui, très peu. Alors, Le sauvetage de Bruce Bégout, paru chez Fayard. Écoutez, c'est une histoire assez extraordinaire et vraie. Réel, véridique. Il s'agit d'un jeune frère, père franciscain qui était étudiant à l'université de Louvain et qui faisait une thèse sur Husserl, qui était le philosophe, grand prêtre de la phénoménologie. Husserl était juif. Et il apprend qu'il est en train de mourir. Or, il sait qu'il a des écrits qui n'ont pas été publiés. Il arrive à convaincre le directeur de l'université de Louvain et son directeur de thèse qu'il faut qu'il aille là-bas Et on est dans les années 38-39, par là, 38. Et bon, ils se font un peu tirer l'oreille parce que l'endroit paraît dangereux, les nazis sont là. Et il va partir, et avec une innocence, une candeur et en même temps une force morale, un désir de réussir, il va arriver à sortir non pas un petit texte, non pas quelques écrits, mais en fait deux énormes valises que Husserl l'a laissé et que sa veuve, puisqu'il va mourir, il y a une très belle d'ailleurs, un très beau passage sur la mort d'Husserl, sa veuve va être contente de lui confier parce qu'elle sait que les nazis vont entrer dans cette maison, que la ville va être bombardée certainement, voilà. Et c'est un roman à la fois d'aventure, un roman où il y a une psychologie, la psychologie de ce père franciscain est formidable. Je me suis régalée.
Voilà, rappelez-nous le titre de l'ouvrage.
Alors, Le sauvetage de Bruce Bégout.
Le sauvetage de Bruce Bégout. On fait une première pause et je rappelle Bruce, c'est ça, hein ? Bruce Bégout. Et je rappelle peut-être le rendez-vous de votre émission pour tous ceux qui ne l'ont pas encore écouté, Parole d'auteur. Le mardi à 19h, je redonnerai à la fin les titres des ouvrages.
Emmanuel Pella.
Noël et ses livres, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau pour rappel Monique Fauché, productrice de l'émission Parole d'auteur, le mardi à 19h, donc émission littérature de cette antenne, Sylvie Eustry, responsable de la chronique Coup de cœur jeune, chronique littéraire donc des jeunes, comme son nom l'indique, le vendredi à 8h12 dans le cadre de la matinale et rediffusée le samedi soir, et nous rejoindra un petit peu plus tard François Raverdeau, président de la librairie Siloé Joanneau, librairie religieuse à Toulouse. Alors on va être deux à vous interroger, Sylvie, non pas à vous soumettre à la question, mais à vous accompagner pour cette deuxième partie. Cette deuxième partie, c'est plutôt donc littérature jeunesse, pour donner des idées aux parents, aux grands-parents, de quelques cadeaux, de livres qui peuvent marquer leurs adolescents, leurs jeunes adultes ou leurs chérubins. Vous vouliez commencer par un livre qui est, j'allais dire, c'est un best-seller. En tout cas, je pense qu'on est un certain nombre à l'avoir eu entre les mains plus jeunes. L'ami retrouvé de Fred Ullmann, voilà, qui a été publié en 1971. L'histoire d'une amitié entre un certain Hans Schwartz, fils d'un médecin juif. Ça se passe donc juste avant la Seconde Guerre mondiale.
En 1932.
Et, voilà, et un certain Conrad von Hohenhoffel, je ne sais pas si je prononce correctement, jeune aristocrate. Racontez-nous un peu l'histoire de cette amitié.
Alors cette amitié, donc, c'est ce jeune juif et ce descendant de grande famille noble d'Allemagne qui tombe en amitié. Ce sont deux garçons très réservés, très timides, et qui apprennent à se découvrir et qui vraiment, entre guillemets, tombent en amitié. Et cette amitié est aussi idéalisée, elle est vraiment très belle, très forte, mais nous sommes en 1932. Nous savons, en tant que lecteurs, qu'il y a la montée du nazisme et qu'énormément de problèmes vont bientôt arriver. Eux ne le savent pas encore, mais peu à peu, la politique, les brimades rentrent dans leur établissement scolaire et cette amitié va se retrouver...
Se fissure.
Donc on découvre aussi, en même temps que cet idéal d'amitié, c'est admirablement décrit les relations qu'ils ont tous les deux, et on découvre la peine, le rejet, la souffrance de cette séparation et qui fait que ils se quittent. L'un part aux États-Unis puisqu'il est juif
ses parents l'envoient
aux États-Unis. Et il a des nouvelles de cet ami allemand plus de 30 ans après, persuadé que cet ami l'a abandonné lorsqu'ils étaient jeunes, et il découvre en réalité que cet ami ne l'a jamais quitté, puisqu'il a été fusillé pour avoir voulu attenter à la vie d'Hitler. Et donc, 30 ans après, il retrouve son ami, même s'il est décédé.
Alors, qu'est-ce qui vous a plu ou marqué dans ce livre ? Vous me disiez en préparant l'émission que c'est peut-être une espèce d'introduction à ce qu'est l'amitié. Voilà, quand on est jeune, on peut se faire une très haute idée de l'amitié, mais on dit aussi que l'amitié, c'est comme une forme d'antichambre de l'amour, donc c'est aussi normal de se faire une très haute idée de l'amitié.
Voilà, donc,
voilà, c'est quoi ? C'est un roman d'initiation, peut-être ?
C'est un roman d'initiation, c'est un roman aussi tout en poésie. Alors, je dirais, en plus, ce n'est pas un roman. C'est pas un roman, c'est pas une nouvelle, c'est plutôt une chronique. C'est sur un instant T de vie de ces jeunes garçons qui découvrent en même temps la littérature, la culture, et qui peuvent partager ça avec leur double. Mais leur double, c'est un autre. Donc, cette amitié est à la fois réelle, mais en même temps extrêmement magnifié, idéalisé. Donc la guerre les sépare, mais est-ce que s'il n'y avait pas eu la guerre, cette amitié aurait perduré, parce que la vie fait que c'est toujours un petit peu égratigné. Voilà, c'est un sentiment très fort, mais en même temps c'est très beau, parce que justement cette amitié, dans cette période qui est extrêmement difficile, est très forte et peut apporter, même pour les jeunes de notre époque, je trouve, énormément d'espérance, parce que l'amitié et l'amour subliment la vie.
Voilà, l'ami retrouvé donc de Fred Ullmann, on peut le trouver dans une édition Gallimard Folio 1983. Monique Fauché, vous aviez une question et une remarque.
Oui, justement, en vous écoutant, Sylvie, j'ai été frappée par cette histoire que j'avais lue il y a fort longtemps, en me disant mais que depuis, il y a eu un livre pour adultes qui s'appelle de Cressman Taylor, Inconnu à cette adresse. Et il s'agit de deux amis, un juif et un non-juif, et le garçon juif va partir aux États-Unis. Malheureusement, contrairement au livre dont vous parlez, la fin n'est pas aussi optimiste, aussi glorieuse que qu'on pourrait l'espérer.
Voilà, dans l'ami retrouvé, c'est vrai qu'à un moment, on se dit quand même, Conrad, le fils de cette famille noble et bien connue d'Allemagne, ignore son ami, ne le défend pas contre les autres, contre les brimades. En classe, on le traite de sale youpin. Enfin, ça devient de plus en plus difficile. Et cet ami se détourne petit à petit de lui. Donc il y a une blessure terrible. Mmh. En plus des bribades, il ne le met plus bas que terre. Et cet ami lui tourne le dos. Donc c'est terrible. C'est terrible quand on est grand, mais c'est terrible quand on est jeune et en construction. Mmh. Mais en même temps, c'est une force.
Deuxième livre, Les autos d'affaires de Marine Carteron, paru aux éditions du Rouergue dans la collection Dos à dos. Trois tomes parus en 2014 et en 2015. Je vais avoir un tout petit peu de mal à résumer le propos. Je vais en tout cas lire un propos peut-être introductif. Je vous avouerai que comme je ne les ai pas lus, j'ai eu un peu de mal à saisir cet univers. Il y a semble-t-il un certain Auguste Mars qui est un adolescent de 14 ans, qui a une vie de tout ce qu'il y a de plus ordinaire et son père est tué. Afin de protéger sa mère et sa petite sœur Césarine, qui est autiste Asperger, il se rend à la commanderie où vivent ses grands-parents et rapidement les choses se compliquent. Et pour protéger et retrouver le trésor de sa famille, il devra comprendre quelques secrets cachés depuis des millénaires par les gardiens de la confrérie. Alors là, je suis perdu. Accompagnez-moi, sortez la lampe de poche.
Alors les autos d'affaires, c'est truculent. Je vous avoue que je me suis bien amusée, donc il y a trois tomes. Le premier tome, Mon frère est un gardien. Le second, Ma sœur est une artiste de guerre. Et le troisième tome, Nous sommes tous des propagateurs. Donc c'est une chasse au trésor semée d'embûches. Les héros se battent pour sauver les livres. Il y a du humour, du drame, puisqu'on sait tout de suite que le papa est décédé. Donc c'est vrai qu'on est mis tout de suite dans le bain. Ça parle d'histoire. C'est tendre, il y a de l'action, de rebondissement, c'est un vrai thriller, et bien meilleur que certains thrillers pour adultes. Voilà, donc j'ai pris les trois tomes, je ne suis pas ennuyée du tout.
Mais alors qu'est-ce que ça raconte? Voilà. C'est quoi cette confrérie qui essaye de mener un complot contre les autos d'affaires?
Les autos d'affaires sont ceux qui doivent détruire le livre. Quand on détruit le livre, on détruit la culture, et donc on peut manipuler les foules. Et cette confrérie, depuis des millénaires, dont faisait partie le papa de Gustave, est là pour protéger les livres, protéger la culture, protéger le savoir, car le savoir permet de se libérer, de découvrir, de vivre.
Donc ces adolescents ou ces enfants sont en combat contre cette confrérie qui veut détruire les livres, et c'est toute une aventure qui tourne autour de ça.
Toute une aventure, absolument. Sauf qu'au tout départ, évidemment, Gustave n'est pas du tout au courant qu'il va se retrouver à la tête d'une confrérie. Il vit avec sa petite sœur, ils ont perdu leur papa, ils partent à la campagne chez les grands-parents, et c'est là que l'histoire démarre, qui démarre tout de suite. Et vraiment, si vos enfants n'aiment pas lire, vous pouvez leur offrir, ils ne vont pas les lâcher. Je pense qu'ils vont faire nuit blanche parce que c'est un régal. Et même en tant que parent, n'hésitez pas à le lire. Hein. Vraiment.
Alors pourquoi vous êtes-il autant plus... Enfin, on le sent bien, hein, mais vous disiez que ça peut donner aussi indirectement le goût des livres en fait, aux plus jeunes, c'est ça?
Tout à fait. Ça peut donner le goût des livres parce qu'il y a toute une histoire rocambolesque derrière. Ça permet aussi de découvrir, pour ceux qui ne sont pas très branchés lecture, que le livre, c'est quelque chose. Le livre, c'est... je vais vous lire un petit extrait. Quel trésor représente le livre? Quelle indépendance il autorise? Quelle munition il fournit? Quel éventail d'informations et quel prodigieux spectacle? Le livre est un vase plein de savoir, de raffinement, une coupe remplie de sérieux et de plaisanterie. Il ne te flatte pas outrageusement, c'est un compagnon qui ne t'ennuie pas. Plus tu plonges à la lecture dans le livre, plus ton plaisir augmente. Plus ta nature s'affine, plus ta langue se délie, plus ton vocabulaire s'enrichit, plus ton âme est gagnée par l'enthousiasme, plus ton cœur est comblé. Un livre peut se lire partout, la fin des livres signifierait la fin de l'humanité.
Et c'est une citation tirée des autos d'affaires?
Absolument, qui est page 73 du premier tome. Voilà, et c'est un professeur de français qui parle à ses élèves, et tous les élèves, bon, au début, ils sont un peu interloqués, mais petit à petit, ça fait son petit bonhomme de chemin.
Voilà. Monique, vous êtes convaincue? Est-ce que vous avez envie de lire cette trilogie?
Mais bien sûr.
Mais bien sûr, bien sûr.
Maintenant, je suis un peu sceptique sur les conséquences, sur la lecture de nos enfants, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, peut-être que s'ils se mettent à lire, c'est formidable.
Mais ils lisent, vraiment. Alors, ils lisent. Pas toujours ce qu'on aimerait peut-être lire, c'est beaucoup de sagas, comme celle-ci. Et celle-ci aussi, elle a, comment dire, une différence, c'est qu'elle parle de l'indifférence et de l'handicap.
Parce de la différence, que, oui. Voilà, puisque donc un des personnages est autiste Asperger, comme dans un des ouvrages de Monique.
Voilà, la petite sœur du personnage Gustave, qui s'appelle Césarine, et autiste. Et cette petite Césarine est pleine de fraîcheur. Elle est... Il ne faut pas se fier à son apparence. Elle a des petites couettes, des soquettes. Elle dit ce qu'elle a à dire. Et elle prend les mots au sens premier.
Parce que les autistes Asperger ne savent pas mentir. J'ai
Exactement.
Vu un documentaire récemment, il disait, dans le documentaire, cette jeune fille disait « Nous avons un avantage, nous, les autistes Asperger, c'est que nous ne savons pas mentir. »
Tout à fait. Et ça se sent aussi dans ces trois tomes. C'est une petite fille qui, par exemple, a une amie qui s'appelle Sarah, qui est différente aussi. Et cette petite Césarine, un jour, découvre que son amie Sarah est traitée de mongole. Et là, elle se dit, mais mongole, d'abord c'est méchant, et en plus c'est idiot, parce que les mongols sont les habitants de la Mongolie, et que Sarah est française, donc je vois pas où est le problème. Enfin, pour elle, les mots ont une véritable signification. Et parfois, je pense qu'on devrait un petit peu plus se pencher sur la signification des mots. Et cette petite Césarine apporte cette fraîcheur, cette truculence, tout au sein de ce roman. Et c'est un rythme, une fois, comment dire, c'est soit le journal de Césarine, soit le témoignage de Gustave. Et donc, à chaque fois, nous avons ce balancement qui nous amène constamment vers des rebondissements et de l'action.
Les autodafeurs de Marine Carteron aux éditions du Rouergue dans la collection Dos à dos. Dernier nominé pour la littérature jeunesse, c'est mon préféré, Nouna la nouille de Nicole Lambert. Je ne l'ai pas lu, mais les extraits que j'ai lus m'ont fait terriblement envie. Édition donc Nicole Lambert, parue donc cette année. Nina la nouille, il faut le dire, vous allez nous raconter l'histoire. C'est l'histoire d'une nouille, mais surtout, il faut peut-être dire un mot de son auteur avant de parler de l'histoire. Son auteur, donc Nicole Lambert, c'est la dessinatrice de la fameuse, je ne sais pas si on doit dire, série,
les
triplés,
albums, oui.
Album Les Triplés, donc qui ont connu un succès international. Et donc depuis, semble-t-il, un certain nombre d'années, elle dit même 25 ans, dans une plus courte interview que j'ai vue, elle avait en tête cette histoire de nouille. Alors, qu'est-ce que cette histoire de nouille, Sylvie ?
Alors, cette histoire de nouille, c'est la vie de Nouna la nouille. Donc, c'est un album pour les 3-6 ans qui est de toute beauté. Tout d'abord, la couverture est en velours. Donc, rien que de le prendre, ça y est, on est dans un petit cocon. Donc, vous pouvez le lire, vos enfants de 3 à 6 ans. C'est les aventures donc d'une petite nouille qui ressemble, on va dire, à farfalée, puisqu'il y a plusieurs catégories dans les nouilles, et qui veut découvrir le monde. Un jour, elle quitte son paquet de nouilles.
Alors, je vais citer, d'accord, ça ne vous embête pas. Dans un joli paquet, sur une haute étagère de la cuisine, vivait toute une société de nouilles. C'est ainsi qu'un petit matin, elle se laissa glisser hors du papier. Tout était sombre et silencieux pour la première fois de sa vie. Elle était seule. « je suis libre », chantait-elle en tourbillonnant sur la pointe des pieds. Soudain, elle se cogna dans quelque chose de dur et de vertical, ou plutôt dans quelqu'un. Et c'est, semble-t-il, une autre nouille.
Exactement, c'est un spaghetti. Et les spaghettis sont droits. Dur, méchant, rigide. Donc elle découvre le monde des pâtes. Les spaghettis sont assez furieux d'être ennuyés par une toute petite nouille. Heureusement, arrivent les macaronis qui sont gentils, vivants, envolés, italiens, tout simplement. Donc les macaronis la sauvent. Et tout au long de son périple à la rencontre des autres et du monde, elle ne cesse de chanter « Je suis Nouna la nouille et je veux sortir de mon paquet et je veux descendre de mon étagère et je veux voir le monde et tout savoir ». Donc vous pouvez le faire avec vos enfants, le lire. Les illustrations sont splendides, il y a beaucoup d'humour, il y a un suspense terrible. Attention, ça peut faire un petit peu peur parce qu'à un moment, Nouna la nouille va rencontrer des méchants, des cafards. Donc va-t-elle réussir à s'échapper de ces méchants cafards qui veulent la dévorer ? Et puis elle va rencontrer aussi un gentil humain qui va la protéger et qui n'est pas là pour manger des nouilles. Elle rencontre les pâtes alphabées, elle rencontre les coquillettes, elle rencontre le roi.
Mais alors c'est pareil, c'est quoi ? C'est une espèce de petit livre initiatique ?
C'est un petit livre, un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles, mais je dirais que c'est plus la découverte du monde. Donc pour les tout petits, sortir, aller vers les autres, très bien. Il faut quand même rester prudent. Partir à l'aventure, c'est bien. Mais il faut rester prudent. On rencontre des tas d'aventures, on peut avoir peur, ça permet aussi de découvrir et de réfléchir sur la vie et la découverte des autres. Tout le monde n'est pas gentil, mais tout le monde n'est pas méchant.
Monique Fauché, est-ce que ce n'est pas ce qui manque à la littérature aujourd'hui, d'avoir ce regard d'enfant?
Oui, je pense qu'en effet, c'est un livre que j'offrirai à mon mari, qui adore manger des pâtes, si ce n'est pas sponsorisé par Panzani, n'est-ce pas?
Non, pas du tout, pas du tout. Mais à la fin, je ne suis pas sûre qu'on mange les pâtes, parce que Nuna la nouille est tellement attachante que j'ai bien peur qu'on ne mange plus jamais de pâtes. Voilà, tout à fait.
Oui.
Beaucoup d'humour, on s'amuse énormément. Et vraiment, lisez-le avec vos enfants, ça va être un plaisir partagé.
Mais Monique, je vous posais la question un peu plus sérieusement, c'est peut-être un peu bateau la question que je vous pose, mais faut-il avoir un regard d'enfant justement pour que la littérature soit réenchantée ou le monde soit réenchanté? Ça fait partie du mystère de Noël.
Il faut en tout cas avoir un regard très curieux et aimer ce qui nous entoure, aimer rencontrer les autres, aimer rencontrer ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils vivent. Oui, moi je crois qu'il faut être intéressé même justement par ces livres d'enfance, je crois très fort. Moi qui lis beaucoup d'histoires à mes petites filles, pas Baudelaire, hein, mais je lis. Mais effectivement, là, celui-là m'intéresse, mais les autres également, c'est vrai.
Jean d'Ormesson avait-il quelque chose, on va dire, d'un peu enfantin, au-delà du gentilhomme français que l'on connaissait?
Alors, effectivement, il était curieux de tout et il s'émerveillait des choses. Il disait c'était pas tant. Bon, alors ça, on le mettait en boîte là-dessus. Mais c'est vrai qu'il avait une faculté d'émerveillement incroyable pour son grand âge, puisqu'on l'a connu, il est venu à Toulouse 2 ans avant sa mort. Hein. Et ça, je trouve ça merveilleux. Je crois qu'il faut qu'on essaie de cultiver cette curiosité, cet enthousiasme, cet amour des choses et des gens.
Sylvie, vous voulez rajouter quelque chose?
Je veux dire que justement, dans ces petits livres, que ce soit Nuna la nouille, bon, c'est pour les tout-petits, pour les livres pour les adolescents, il y a des épreuves, effectivement, qui permettent de grandir. C'est un début initiatique, mais ils sont tous pleins d'espérance. Ils croient en des valeurs, ils croient en l'amitié, ils croient en le partage. Nuna la nouille se fait des amis, malgré les difficultés qu'elle rencontre. Dans les autodaffeurs, ils sont tout un groupe d'amis, dans une quête pour sauver les livres. Dans le livre « L'ami retrouvé », c'est la force de l'amitié qui permet aussi de se construire et de se reconstruire. Il y a constamment de l'espérance. Et dans tous les livres, les sagas fantastiques qu'ils lisent, il y a la force de l'amitié et des valeurs dans tous les livres pour les jeunes.
Littérature jeunesse, L'ami retrouvé de Fred Ullmann, Les autodaffeurs de Marine Carteron et Nuna la nouille de Nicole Lambert. Et j'en profite pour rappeler les nominés de Monique Fauché, puisque je ne l'ai pas fait avant la première pause, Le chemin des humbles de Rémi Borde, L'enfant qui mesurait le monde de Métin Arditi et Un hosanna sans fin de Jean d'Ormesson. On fait une deuxième pause et puis on va parler d'ouvrages de spiritualité avec François Raverdeau, président de la librairie Silo et Joanneau à Toulouse. Noël et ses livres, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce vendredi, presque veille de Noël, pas tout à fait, mais 10 jours avant, avec autour du plateau donc Monique Fauché, productrice de l'émission Parole d'auteur, Sylvie Austry, responsable de la chronique Coup de cœur de jeunes, et François Raverdeau, président de la librairie Siloé Joanneau à Toulouse, librairie religieuse. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes avec nous donc ce matin pour nous donner vos coups de cœur à vous. Vous avez la responsabilité de nous parler de coups de cœur spirituels. Le premier livre que vous avez choisi, c'est Luc, mon frère, un livre de Michael Lonsdale. Voilà, j'ai trouvé ce titre sur Aletheia, un livre qui parle au cœur. Il faut rappeler peut-être qui est Frère Luc. Frère Luc est l'un donc des 7 moines de Tibérine, moine trappiste, qui a été assassiné le 21 mai 1996, enlevé la nuit du 26 au 27 mars, et retrouvé assassiné, et qui ont été béatifiés le 8 décembre dernier. Comment vous nous résumeriez le propos de ce livre, François Raverdeau, Luc, mon frère, de Michael Lonsdale?
Alors, c'est un livre qui témoigne d'une rencontre, en fait, celle de l'auteur, donc Michael Lonsdale, avec Frère Luc, qui, comme vous l'avez dit, donc est l'un des 7 moines de Tibérine qui a été assassiné. Il avait 82 ans, Frère Luc, quand il a été assassiné. Alors c'est une rencontre qui est assez particulière, puisqu'elle n'a pas été physique, puisqu'ils ne se sont pas rencontrés, ni en Algérie, ni en France. Et alors, pendant que l'un menait sa vie de moine cistercien, l'autre, il était sur un plateau de tournage ou sur une scène de théâtre. Et puis, tout le monde se souvient, il y a eu le film « Des hommes et des dieux » tourné en 2009. Film pour lequel le réalisateur Xavier Beauvois, certains se rappellent peut-être de lui, a demandé à Michael Lonsdale de jouer le rôle de Frère Luc, le moine médecin. Et c'est pendant le tournage et après que l'acteur a mesuré la dimension spirituelle de ce frère, qui pendant un demi-siècle a prié pour le monde et a soigné les corps et les âmes. Il a soulagé les souffrances des pauvres. Ça, je crois que c'est extrêmement parlant. Il soignait, il écoutait, il réconfortait les habitants du village et des alentours. Ça se passe sur les contreforts de l'Atlas algérien, là où était le monastère.
Alors,
Frère Luc, et c'est ça qui m'a beaucoup marqué, avait la vocation de l'amour.
Alors, on peut peut-être dire deux mots supplémentaires sur Frère Luc. C'était un brillant médecin, Paul Dauchier, oui, qui a été en fait donc appelé à la vie contemplative et qui a choisi donc de rentrer donc à l'abbaye, donc au monastère d'Aigbel, de Tibérine, d'Aigbel et donc après de Tibérine, donc de vivre là-bas. Et donc il y avait ce dispensaire au cœur du monastère qui était presque devenu la mission principale du monastère. Qu'est-ce que Michael Lonsdale, sans trop déflorer l'ouvrage, dit de la sagesse de ce frère qu'il découvre? J'ai lu qu'il aurait dit la chose suivante: il a fallu que 7 moines soient assassinés pour que j'apprenne l'existence de ce frère, laissant entendre aussi que peut-être on ne se serait jamais penché sur les notes ou les écrits de ce frère.
Oui, parce que il avait quand même écrit, d'ailleurs il avait fait un testament spirituel, comme avait fait d'ailleurs le frère prieur, lui aussi, testament qu'on a retrouvé après. Disons que ce sont des textes extrêmement spirituels qui nous bouleversent en fait, parce que si on prend le frère Luc, puisque c'est le sujet du livre, il portait sur ses épaules la souffrance du monde, mais comme dit Michael Lonsdal, en lui, cette souffrance rejoignait le cœur de Dieu. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Michael Lonsdal, il dit que tous les deux, alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés, et il s'en aperçoit après, après d'ailleurs avoir tourné pour le film, que tous les deux, ils ont partagé des convictions et des valeurs fortes. Et notamment, moi, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est cette humilité commune qui leur fait penser, d'une part, que nous ne sommes pas appelés à faire de grandes choses dans ce monde. Si on en fait, tant mieux. Si on n'en fait pas, c'est pas grave. Et que d'autre part, si notre présence n'est pas nécessaire, elle peut être utile au monde. Et ça, je crois que c'est le grand message de ce livre. C'est une leçon d'humilité. Et moi, ça m'a beaucoup rappelé, par exemple, la spiritualité de Maurice Zindel. Une spiritualité liée au renoncement, au retrait de soi.
Voilà, donc Luc, mon frère, de Michael Lonsdal. Il y aurait bien d'autres choses à dire probablement, mais je vois le temps qui passe. Je veux que vous ayez le temps de nous parler des deux autres aux éditions Philippe Ray, donc paru cette année. Le deuxième ouvrage que vous avez choisi, c'est 15 paraboles tournées vers l'essentiel de René Luc, qui est un prêtre, qui avait écrit un best-seller Dieu en plein cœur, publié à plus de 50 000 exemplaires. Et là, donc, ce sont 15 paraboles. Alors des paraboles, la parabole du radiateur ou si Dieu est bon, la parabole du chemin ou comment respecter les autres religions, la parabole du soleil ou comment expliquer la Trinité. Faites-nous rentrer un peu dans cet ouvrage.
Alors effectivement, bon, comme vous l'avez rappelé, le père René Luc est donc très connu par rapport à son premier ouvrage. Et alors il change complètement. Dans ce premier ouvrage, il parlait de lui en fait, de son parcours tout à fait étonnant. Là, il nous parle effectivement de paraboles. Le but de ce livre, c'est de répondre à des questions concrètes sur la vie que chacun se pose.
Alors, donnez-nous des exemples peut-être.
Oui, alors comme exemple, bon, on peut prendre la... Il y a 15 paraboles, hein. Donc on peut prendre la première parabole, « Est-ce que j'aime Jésus ?» Et alors, le Père Luc nous montre qu'aimer Jésus, cela, ça traduit par l'amour de la parole de Dieu, donc la lecture de la Bible. Ça se traduit aussi par la fréquentation des sacrements, par le fait aussi que vivre sa foi, eh bien, ça se fait... pas tout seul, on vit sa foi avec des frères et des sœurs.
Mais oui, la parabole, là, si je peux me permettre, parce que là, c'est des conseils de vie spirituelle, mais il n'y a pas de parabole là-dedans.
Ben, alors, en fait, c'est le contenu de la parabole, en fait. Hein. Alors, après, à chaque fois, il y a toujours un sous-titre quelque part. C'est la parabole, par exemple, de la porte du cœur, cette première parabole dont je viens de parler. Si je prends la troisième parabole, que j'ai trouvée vraiment magnifique, comment reconnaître les signes de Dieu? Alors là, le père René Luc nous donne son exemple personnel. Quand en juin 1980, il va pour la première fois à Lourdes. Et alors, rappelons-nous son premier livre, dans lequel il parle que son père l'avait abandonné. Et au même moment où il va à Lourdes, donc en juin 80, c'est le moment même où son père biologique, qu'il n'a jamais rencontré, vient le chercher pour la première fois et va le trouver à Lourdes. Alors, c'est un clin d'œil. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, c'est la grande leçon de cette troisième parabole, c'est « Dieu nous donne souvent des petits signes merveilleux de sa présence ». Et il dit même, telles des étoiles filantes, qui nous stimulent pour le connaître, lui, Dieu, et pour l'aimer aussi.
Voilà, donc ça c'est le deuxième 15 paraboles tournées vers l'essentiel du père René Luc, donc parabole, conseil de sagesse de ce prêtre qui est entre autres très tourné vers les jeunes, puisqu'il a aussi une école d'évangélisation qui s'appelle Cap Missio. Dernier livre, Le curé se met à table. C'est donc le père Stéphane Esclef. C'est un livre d'entretien, si j'ai bien compris. Et le père Stéphane Esclef, qui a la particularité, donc il est curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Belleville dans le 19e arrondissement à Paris. Et il a été cuisinier avant de devenir prêtre. Quel est le propos de ce livre?
Alors, là aussi, un livre très intéressant. Ce prêtre, donc, il naît dans une famille très éloignée de la foi. Et il s'oriente professionnellement donc vers sa passion qui est la cuisine. Et il réussit très bien d'ailleurs. Il va être au fourneau, notamment dans des palaces, il va même en Angleterre, etc. Et puis au cours d'un pèlerinage à Lourdes, parce qu'il fait son service militaire, hein, à l'époque c'était obligatoire. Il fait donc un pèlerinage à Lourdes et il se sent appelé à donner sa vie par le Christ. Bon. Alors, les épreuves n'ont pas manqué quand même. Il commence une première conversion, je dirais, et alors, faut se rappeler qu'il vit des moments difficiles, il a une mère alcoolique, un père qui n'affronte pas vraiment les difficultés de la vie. Mais à chaque fois, la Vierge lui fait signe, lui parle au cœur.
Alors, juste, c'est un récit autobiographique, c'est un récit écrit par ce fameux Albéric de Palmar, c'est ça, qui est journaliste, est-ce que vous pouvez me préciser?
Oui, c'est un livre un petit peu d'entretien, effectivement.
Voilà, donc avec Albéric de Palmar, qui est journaliste et auteur de nombreux ouvrages, entre autres, si on doit citer l'aviation et la spiritualité, ou enfin bref, méditer avec les disciples de Jésus. Alors, continue peut-être sur l'histoire, donc c'est en fait l'histoire de ce prêtre, c'est ça?
Voilà, c'est l'histoire de ce prêtre qui connaît une première conversion, mais qui, au départ, ne pense pas du tout à devenir prêtre. Mais il va rencontrer Marthe Robin, ça c'est très important, nous sommes dans les années 80. Et Marthe Robin l'oriente un petit peu sur le fait qu'il peut devenir prêtre. Et alors, il va commencer une pratique d'adoration, et dans la nuit du 22 au 23 juillet 1988, il raconte très bien ça, il vit une expérience décisive avec le Seigneur qui s'adresse à lui. « Stéphane, lâche tes couteaux, lâche tes fourneaux, suis-moi et deviens prêtre. » Et là, c'est quand même assez magnifique parce qu'il s'aperçoit qu'il ne peut pas refuser ça au Seigneur. Alors, il va rentrer au séminaire. Bon, on va passer sur toutes les épreuves qu'il va connaître, hein, puisque sa mère est alcoolique au dernier degré, et il va être tenté par le malin, par le démon. Ça, c'est un passage très important dans ce livre où, comme il dit, le malin s'attaque à ceux qui, justement, veulent se donner au Seigneur. Un livre vraiment magnifique à lire.
Voilà, donc on peut lire aussi un certain nombre d'entretiens. J'en ai trouvé un sur le site Aletheia où il rapporte entre autres que son expérience donc de cuisinier et son expérience de cuisinier lui sert beaucoup dans sa vie de prêtre aujourd'hui, disant que ça a été une profonde école de la vie. Je vais redonner les titres des ouvrages donc que vous avez cités, si je retrouve mes notes à la fin de cette émission, ou alors je vous laisse les redonner, François Raverdeau, oui. Comme ça vous me servez d'antisèche. Allez-y.
Voilà. Alors le premier livre, c'est Luc, mon frère, de Michael Lonsdale, aux éditions Philippe Ray. Le deuxième, c'est le livre de Père René Luc, 15 paraboles tournées vers l'essentiel, aux éditions Presse de la Renaissance, Plomb, c'est une coédition. Et le troisième livre, c'est le livre de Stéphane Esclef, en entretien avec Albéric de Palmer, Quand le curé se met à table, aux éditions Salvator.
Voilà, et puis sans vouloir être trop fastidieux, je redonne les titres des autres nominés de cette émission. Sylvie Ostry pour les jeunes, L'ami retrouvé de Fred Ullmann, Les autos d'affaires de Marine Carteron. Voilà, série qui a l'air d'être passionnante. Nouna la nouille de Nicole Lambert. Et pour Monique Fauché, Les chemins des humbles de Rémi Borde, L'enfant qui mesurait le monde de Métain Arditi. Et un Hosanna sans fin de Jean d'Ormesson. Un grand merci d'être venu ce matin au micro de Vivante Église pour nous parler livre en cette presque veille de Noël et nous donner ses conseils de lecture judicieux. Merci beaucoup. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.